bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamiers et aussi des Parlements sur Internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Cette semaine, nous allons consacrer cette émission à un événement tragique au Chili, le 11 septembre 1973. Le 11 septembre 1973, un putsch met en terre brutale aux 3 ans de gouvernement de l'Unité populaire de Salvador Allende. Une junte du gouvernement des forces armées chiliennes renverse le président Salvador Allende. Loin de convoquer des élections après une période de remise en ordre, les militaires putschistes gouvernent de facto jusqu'en 1980 en proclamant le général Augusto Pinochet, je cite, chef suprême de la nation. Une nouvelle constitution en 1980 institue une véritable tutelle de l'armée sur le devenir politique du pays et octroie au chef de la junte un statut de président de la République. Pinochet a ainsi été proclamé officiellement président sans jamais avoir été élu. Les premières caractéristiques de ce coup d'État sont sa brutalité et sa dimension refondatrice. Des images de la violence des événements sont restées gravées dans la mémoire collective. Le refus d'Allende d'abandonner le pouvoir et de partir en exil. Son rappel aux militaires de l'obéissance due au pouvoir civil. L'attaque par l'aviation du palais présidentiel de la Moneda en plein centre de la capitale Santiago. Le souci d'Allende pour ne pas obtempérer aux ordres des généraux factieux. Il s'arrête en quelques jours 45 000 personnes connues pour leur appartenance ou leur sympathie pour la gauche ou l'extrême gauche. Tous sont internés et interrogés, souvent torturés, soit dans des casernes, soit dans le Stade national de Santiago. À la fin de l'année 1973, 1500 civils ont été tués par les forces armées. Quelques dizaines ont péri lors d'affrontements avec les militaires, ou ont été fusillés. Tous les autres ont été assassinés après avoir été arrêtés et torturés en toute illégalité. La violence a continué de toucher la société chilienne des années durant, ce qui va provoquer l'exil des centaines de milliers de Chiliens. Mais nous avons aussi un témoignage de Régis Desvrais. Béatrice va nous livrer ce témoignage.
Oui, c'est paru dans Le Monde diplomatique en septembre.
C'est
cette année, oui. Il avait vécu en épicurien. Il s'est donné la mort en stoïcien. Le bon vivant Allende, ce 11 septembre 1973, eut une fin à la romaine. Cela n'était pas prévu qu'il partirait pour la légende et resterait dans les mémoires. Allende aimait le pisco, la bonne chère, les blagues et les jolies femmes, car il avait de l'humour, chose rare à gauche, et ne posait pas en héros qu'il deviendrait un jour. Il n'avait ni barbe, ni béret, el compañero presidente. Sortant de prison en Bolivie, j'ai été son invité et me repens encore du petit ton prétentieux de donner de leçons marxistes-léninistes qui fut le mien en conversant avec le président du Chili. Lui, le réformiste, moi, le révolutionnaire. Un cliché, un jeu de rôle. Le Chili d'alors euphorique cachait bien son jeu. Pas punitive pour un sou, l'unité populaire. Optimiste. Pas faite pour la haine ni la hargne. Le martèlement des casseroles dans les beaux quartiers ne faisait pas oublier les huîtres, de merveilleux oursins et un blanc savoureux. Un congrès très actif, des militaires civilisés. On disait « un parfum d'Europe du bout du monde ». On oubliait l'Amérique du Nord qui préparait et finançait en silence la guerre. Blocus, financement, sabotage et, quand nécessaire, assassinat. La Maison-Blanche et la CIA ne chômaient pas. Au pays de la bonhomie, il n'était pas bien de penser à mal. La démocratie est un exercice de modestie, disait Camus. Elle s'apprend avec l'âge et on peut abréger les délais. Je ne nierai pas que le Chili a précipité l'apprentissage d'un petit Français trop sûr de lui. L'immolation d'un grand monsieur, qui n'en avait ni l'air ni la prétention, nous rappelle que le tragique peut encore, en Occident, et sous les masques paisibles, nous sauter à la gorge, à la figure. Une leçon à garder dans un coin de sa tête, même quand la tête s'est désintéressée du jeu politique. Compañero Allende, ne disparaît pas. On te doit tellement dans l'Europe oublieuse comme ailleurs. Sans souvenir, 50 ans après, n'est jamais de trop.
Por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra. Y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora. Quien no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios. Alcanzar las estrellas, que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Todo comienza. sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva.
Víctor Jara, un chanteur de folklore chilien qui a été assassiné par la dictature militaire. Vous êtes venu à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous avons aussi un édito qui a été publié, nous avons gardé dans les archives d'Opéal, dans la revue L'Histoire, n'est-ce pas, Béatrice?
Oui. Donc c'était un autre 11 septembre, il y a 50 ans. La nouvelle du coup d'état militaire à Santiago, le palais de la Moneda en flammes, entouré de blindés, la mort d'un président frappait l'opinion internationale. Pourquoi y avons-nous été si sensibles? La sympathie jouée pour ce président humaniste, qui se disant fort du soutien populaire, avait ce jour-là refusé de fuir en prenant l'avion mis à sa disposition et qui finalement choisissait le sacrifice. Les exilés chiliens déferlèrent dans les capitales européennes. Les bourreaux avaient, eux, la tête de l'emploi. Cachés derrière leurs lunettes noires, ces tortionnaires ne reculaient devant rien. À la fin de 1973, le bilan était déjà lourd. 45 000 opposants emprisonnés, près de 1 500 civils tués ou disparus. Il ne manquait pas même la figure tragique du poète Pablo Neruda, prix Nobel de littérature, retrouvé mort le 23 septembre dans sa maison saccagée. Le drame était entier. La gauche française fut particulièrement sensible à l'événement. L'effet d'identification était fort. Le président immolé, socialiste, partisan de la réforme agraire et de la nationalisation des grandes mines de cuivre, était l'élu d'un front populaire qui avait signé un programme commun de gouvernement. L'effet de surprise était d'autant plus grand que le Chili semblait une démocratie solide. Dans une Amérique latine habituée au populisme et aux dictatures en tout genre, il apparaissait comme un pays tempéré, où la Constitution de 1925 avait mis en place des institutions qui autorisaient l'alternance des partis au pouvoir. Mieux, l'armée chilienne apparaissait comme subordonnée au pouvoir politique. On n'avait pas voulu voir qu'Allende avait été élu par un scrutin uninominal à un tour, où ses 36% ne pouvaient lui donner stabilité qu'avec l'assentiment d'une oligarchie sénatoriale bientôt effrayée par ses réformes et les surenchères de l'extrême gauche. Que les démocraties solidaires supposent la congruence forte d'un appareil d'État, police, armée, justice, et d'une société civile fortement intégrée. C'est par là que la démocratie chilienne était fragile. Mais cet équilibre n'est jamais chose acquise pour toujours. La leçon vaut pour tous, pour toutes les autres démocraties.
Oui, et surtout maintenant en Europe, des démocraties qui sont menacées par l'extrême droite. C'est des leçons qu'on peut tirer depuis 50 ans, n'est-ce pas? Et justement, c'est intéressant de savoir si nous avons un autre témoignage, on peut le dire. Le livre écrit par Alain Touraine, « Vie et mort du Chili populaire ». Et il nous indique au départ que le 11 septembre 1973, j'ai regardé, donc c'est Alain Touraine qui parle, j'ai regardé du centre de la ville de Santiago brûler la Moneda, palais présidentiel, pendant 2 semaines après le coup d'État, tout en vivant l'angoisse des amis disparus ou emprisonnés. Il réfléchit sur les causes de la chute et la nature des nouveaux régimes. J'ai quitté le Chili le 24 septembre, au moment où était enterré Pablo Neruda. C'est curieux, mais j'ai assisté à l'enterrement de Pablo Neruda dans mon pays, il y a 50 ans. Donc, Alain Touraine écrit ses Marcel Niedengar, qui écrit cet article aussi au sujet de ce livre, j'insiste, Vie et mort du Chili populaire de Alain Touraine. Donc, Marcel Niedengar nous dit Alain Touraine a eu l'idée de tenir un journal presque quotidien, notant ses réactions et ses commentaires aux événements, analysant les rumeurs, s'interrogeant sur l'ampleur des complots civils ou militaires. Puis, les putsch étant entrés comme la foudre dans la maison, il a noté rigoureusement tous les signes tragiques et cruels d'une répression exceptionnellement brutale. La joie indécente des vos quartiers, la désagrégation des états-majors des partis populaires, l'installation de la terreur blanche. Alain Touraine, observateur et témoin exceptionnel, ne renie aucun de ses jugements. Les Chiliens croyaient à la guerre civile, mais pas au coup d'État. La première partie de ce récit, allaitant comme la crise qui montait, explique qu'après les bombes sur la Moneda, l'aveuglement et l'égoïsme des momios, les momios, c'est ceux qui sont les personnes des opinions arriérées, c'est-à-dire les conservateurs vraiment nationalistes qui gardaient tout le pouvoir économique. Donc les momios, comme le verbalisme et l'incapacité des partis de gauche, il illustre quelques-unes des failles de l'unité populaire. Le sectarisme, le manque d'intérêt pour les problèmes économiques, l'absence de consignes précises, enfin l'écartèlement entre l'attente socialiste de l'affrontement et la volonté communiste de dialogue. L'ouvrage d'Alain Touraine mérite d'être lu et relu, car il ne s'agit pas seulement du Chili, de ses espoirs, de ses conquêtes et de ses frustrations. Le sociologue nous offre une réflexion de qualité sur le socialisme, sur sa capacité d'organisation des masses, le rôle de l'armée et de ses rapports avec l'État, sur l'ultra-gauche et la gauche, sur la démocratie chrétienne et son aveuglement suicidaire, sur la sociologie latino-américaine. Ce témoignage pourrait être seulement de deuil, il est aussi d'espoir.
En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita y un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme palomita y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma,
no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, ay, paloma.
Víctor Jara, ay, paloma, ay, paloma. Un gran chanteur du folklore chilien assassiné, j'insiste, par la junte militaire sous la dictature de Pinochet. Mais nous allons parler aussi de un autre spécialiste de l'Amérique latine et des Chiliens en particulier, c'est Godichaud, n'est-ce pas,
Franck Béatrice? Godichaud, oui.
Voilà.
Qui a écrit « Découvrir la révolution chilienne ».
Oui, d'autant plus que ça aussi s'est apparu dans le monde diplomatique de ce mois-ci, septembre.
Donc ce mardi 11 septembre 1973, le ciel est gris, l'hiver austral est encore là. Le coup d'État débute très tôt, quand la marine de Valparaiso prend le contrôle de la ville-port située sur l'océan Pacifique. L'aviation prépare ses avions depuis l'aéroport de Concepción et Santiago. Les mouvements de troupes de l'armée de terre commencent dès 8h30, sous la coupe du général Sergio Arellano Stark. Dès l'aube, Salvador Allende reçoit les informations concernant la situation à Valparaiso et, après plusieurs échanges avec son ministre de la Défense, comprend la gravité de la situation. Il décide ainsi de gagner le palais présidentiel, accompagné de ses plus fidèles collaborateurs et de sa garde personnelle. Il a conscience qu'il affronte une opération coordonnée d'une grande envergure. Avant 11 heures, les 300 carabiniers présents à la Moneda se sont retirés sur ordre de leur hiérarchie. Allende reste seul, avec quelques dizaines de proches. Ces hommes doivent affronter un déploiement militaire sans précédent, tout d'abord de tanks, puis, face au refus du président de se rendre, subissent le bombardement répété du palais par deux avions de combat. Le premier étage est détruit et l'incendie gagne tout l'édifice. Dans son ultime intervention, Allende condamne la trahison de généraux félons, responsables de la rupture de l'ordre institutionnel. Jusqu'à la fin, le président se place comme garant de la légalité républicaine, rappelant son engagement en faveur d'une voie non armée vers le socialisme. Il montre qu'il reste jusqu'à son dernier souffle convaincu de la justesse de ce qu'il considère comme la tradition démocratique et le constitutionnalisme des forces armées chiliennes. Croyant encore en la possibilité d'une issue institutionnelle, en août, Allende avait incorporé des militaires au gouvernement avec un cabinet civilo-militaire d'Union nationale, en vain. Sous pression, le général Carlos Prats, chef des armées, démissionne. Allende nomme alors Pinochet, qu'il pense légaliste, mais opportuniste, ce dernier choisit seulement le 8 septembre de suivre la conspiration. Plusieurs officiers de haut rang décident de se retirer ou sont arrêtés. C'est bien le commandement des trois armées et celui des carabiniers qui conduisent le putsch.
Oui. Quand on a vécu tout ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent dans la mémoire. Et par exemple, quand on oublie parfois que Pablo Neruda est mort 11 jours après le coup d'État, et on dit qu'il a été assassiné, non, selon mes sources à moi, il était déjà malade, il avait un cancer, il a dû renoncer à continuer à l'ambassade quand il a été ambassadeur à Paris. Donc, il a été obligé de rentrer. Mais Et j'ai lu quelque part qu'il est mort de sa maladie, mais aussi de la tristesse de ce que la... Parce que Salvador Allende était un ami. Neruda avait renoncé à se présenter candidat à la présidence pour laisser Salvador Allende. Donc, c'est vraiment très émotionnel. C'est ce mois de septembre pour nous, les Chiliens. Et c'est un mois tragique de beaucoup. C'est pas, on oublie aussi que le 4 septembre, en 1970, il avait été élu, Salvador Allende. La votation avait été favorable. Et donc, 4 septembre, 11 septembre, 23 septembre, mort de Pablo Neruda, c'est quelque chose qui nous touche encore après 50 ans. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Parfois des aspects gays et parfois des aspects tragiques. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias. Hasta pronto.